Bonjour à tous et bienvenue au Washington Briefing. Je suis Benoît Ballet, correspondant de BFM TV aux États-Unis. C'est fait, Donald Trump a été investi 47e président des États-Unis ce lundi et il a signé dans la foulée, sans attendre, devant ses partisans en folie, une dizaine de décrets présidentiels sur des sujets aussi variés que l'immigration, l'énergie, le climat ou encore la diplomatie. Aujourd'hui, on va avec Thierry Arnaud, éditorialiste international à BFM TV et ancien correspondant aux États-Unis, revenir sur cette journée historique et sur les premières mesures prises par le Républicain. Salut Thierry.
Salut Benoît.
Content de t'avoir avec moi à Washington. Alors moi, je suis à la maison dans le studio. Toi, je crois que tu es en train de boire un petit café au chaud.
Au chaud, bien mérité, avec mon camarade Ulysse Gosset qui est à côté de moi, sans sa chapka, qui a été très utile parce que faut quand même qu'on parle du sujet principal de cette investiture, qui est que, on va le dire franchement, on s'est pelé quoi. C'était très très rude.
Ouais, il a fait très froid.
Moi, j'ai le souvenir de l'investiture de Barack Obama en 2008, qui avait déjà été assez brutal au niveau météo, même si c'était un moment évidemment absolument incroyable à vivre. Là, je pense, niveau météo, on a fait pire. Hein. Voilà.
Oui, ouais, c'est clair. Non, c'était assez impressionnant à vivre. Et puis, ça a aussi chamboulé toute l'organisation de cette investiture qui n'a ressemblé à aucune autre. Avec donc cette cérémonie qui s'est déroulée à l'intérieur du Capitole, sous la rotonde. Ça, c'était pour le côté très officiel et quand Donald Trump a prêté serment en bonne et due forme, d'ailleurs avec la main qui n'était pas sur la Bible. Hein, alors il a le droit, il n'était pas obligé, mais la main ne touchait pas la Bible. Et puis ensuite cette parade, ce défilé dans le Capital One Arena, l'arène, l'enceinte omnisport de Washington, de la capitale américaine, où jouent les Wizards, l'équipe de basket, où jouent les Capitals, l'équipe de hockey sur glace que j'ai déjà vu quelques fois. Un défilé finalement qui ressemblait quand même pas mal à un meeting, j'ai trouvé, dans cette enceinte, dans ce stade, même si c'est vrai qu'à la fin on a vu Donald Trump avec ses marqueurs indélébiles signer les premiers décrets de son mandat, 8 décrets, on reviendra sur le contenu, mais c'est vrai que cette image était quand même assez folle, de voir Donald Trump dans un stade face à 20 000 partisans signer des décrets, les montrer et donc quelque part voilà, donner le coup d'envoi d'un mandat qu'il veut éclair, en tout cas dans les premières semaines, les premiers jours.
Oui, c'était vraiment une journée très, très trumpienne qu'on a vécue ensemble avec tout le culot que l'on connaît à celui qui est redevenu le président des États-Unis et qui au fond... J'allais dire, pour emprunter un registre politique et plus chez nous en France, il a fait du en même temps, c'est-à-dire qu'il a montré qu'il voulait à la fois respecter ce qu'il y avait de plus traditionnel dans la cérémonie d'investiture, notamment le début de journée avec ce service religieux à l'église Saint-Jean, le thé à la Maison-Blanche, etc. La volonté de montrer qu'il y avait une forme d'entente ou en tout cas de respect de la continuité en allant dans la même limousine, en partageant sa voiture avec Joe Biden. Et puis de l'autre, en renversant complètement la table, à la fois dans la teneur de son discours d'investiture, qui était quand même ultra violent. Hein. Un discours d'investiture, c'est d'habitude l'appel à l'unité du pays, c'est un moment consensuel où on est plutôt gentil avec son prédécesseur et avec ses adversaires politiques. Là, c'était vraiment tout le contraire. Enfin, je veux dire, physiquement, vis-à-vis de Biden, il a été plutôt sympa. Sur le fond, il a parlé de trahison horrible, de corruption totale, d'incompétence absolue. Enfin, voilà, aucune condamnation, j'allais dire presque insulte, n'était trop forte pour qualifier le bilan de son prédécesseur. Et puis, effectivement, comme tu disais, après, ça a tourné au meeting politique. La veille, on a déjà eu un meeting politique. Le lendemain, c'était un nouveau meeting politique. Au même endroit, exactement. Avec, effectivement, cette scène à laquelle on n'avait jamais assisté, ce spectacle d'un président qui s'assoit à un bureau et qui commence à signer ses premiers décrets avant de balancer les stylos qu'il a utilisés au public qui était venu ici l'aduler. Donc au fond, tout Donald Trump était résumé dans cette journée, à la fois, encore une fois, celui qui est plutôt content d'être président et qui veut montrer que d'une certaine façon il respecte les usages, mais qui encore une fois prend un plaisir, j'allais dire presque de gamin, hein, à renverser la table et à faire vraiment les choses à sa façon.
Et je peux te dire que pour avoir passé du coup 5 heures dans le froid le matin pour entrer comme ces 20 000 électeurs de Donald Trump à l'intérieur du Capital One Arena, avoir suivi toute la cérémonie depuis des écrans géants et ensuite avoir attendu puis vu le 47e président tout juste investi venu saluer ses partisans, ils ont exulté, ils étaient en folie. C'était un moment exceptionnel pour tous ceux qui avaient pu entrer avec des tickets. Là, je l'ai encore sous la main. Vraiment, c'est un ticket de spectacle, quoi. Il y a écrit la 60e investiture présidentielle à Washington DC le 20 janvier. On avait chacun un siège qui nous était attribué. Bon, pour l'anecdote, je n'ai pas pu accéder au mien parce que tout le monde s'était jeté très vite pour s'asseoir, etc. C'était un petit peu la cohue, mais c'est pour donner l'ambiance. Et effectivement, qui dit stade aux États-Unis dit possibilité de s'acheter des hot dogs, des boissons. Donc les gens étaient là avec leur pop-corn en attendant de voir Donald Trump arriver sur cette estrade qui avait été montée à l'intérieur du Capital One Arena. Et effectivement, et ces décrets, Trump les a signés l'un après l'autre sous des ovations. Je me souviens notamment du décret où il explique que les États-Unis vont sortir des accords de Paris pour le climat. Et là, il y a des applaudissements nourris. Et c'est vraiment très étonnant à voir, tout autant que choquant, je pense. Enfin, ça interroge. Donald Trump avait enlevé les États-Unis les accords de Paris en 2016. Joe Biden y était revenu. Et oui, on sent que vraiment, il y avait ces 20 000 spectateurs qui étaient derrière lui et qui n'attendaient qu'une chose, c'est que il délivre, comme on le dit souvent toi et moi avec cet anglicisme, qu'il déroule le programme qu'il a promis pendant toute cette campagne. Alors il l'a fait peu après, une fois à la Maison Blanche dans le bureau ovale, il a gracié près de 1500 personnes qui avaient été condamnées pour avoir mené l'assaut sur le Capitole. Entre autres, qu'est-ce qu'il a déclaré d'autre? Que les États-Unis allaient quitter l'Organisation mondiale de la santé. Il a déclaré que le gouvernement fédéral ne reconnaîtrait plus que deux sexes, masculin et féminin, pour renverser toutes les protections qui avaient été mises en place par Joe Biden pour les personnes transgenres. Il a dit qu'il allait fermer la frontière pour les immigrants sans papier au sud avec le Mexique. Ça a été énormément applaudi aussi. Donc voilà, on a déjà des mesures qui ont été prises par décret pour Trump qui n'a vraiment pas perdu de temps.
Oui, et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, en fait, à propos de... Alors moi, j'étais pas dans la salle, hein, j'ai vécu ça depuis l'extérieur, mais il y avait quand même une ambiance assez extraordinaire au sens propre du terme à Washington. C'est une ville qu'on n'avait jamais vue comme ça. Là, il se trouve, c'était une coïncidence de calendrier que ce lundi était férié ici aux États-Unis. Oui. C'est le jour de Martin Luther King. Et donc, tous les bureaux et une grande partie des commerces sont fermés. Donc, il y avait dans les rues de Washington que les supporters de Donald Trump. Et c'est important de souligner aussi le fait que ramener cette cérémonie à l'intérieur, comme tu l'as dit, dans un stade qui accueille 20 000 personnes, ça laisse vraiment beaucoup de monde sur le carreau, puisqu'il y avait 220 000 personnes, je crois, qui avaient des tickets pour aller à l'extérieur. Et il faut juste se rendre compte que ces gens-là, ils ont dépensé des milliers de dollars pour être ici. Ils ont pris des billets de train ou de sous-bleu, la plupart du temps des billets d'avion, ou bien fait de longs trajets en voiture. Ils ont payé des nuits d'hôtel à des prix totalement exorbitants. On en a parlé entre nous au sein de l'équipe BFM TV. On était totalement sidérés par les prix de nos chambres d'hôtel, hein, qui étaient 3-4 fois...
plusieurs centaines d'euros.
Les prix habituels, on peut dire les chiffres. Hein. Nous, on était dans un hôtel tout à fait banal et pas du tout luxueux, et on payait de 6 à 700 dollars la nuit d'hôtel ici à Washington, ce qui est totalement, totalement délirant.
Et parce que je ne pouvais pas tous vous accueillir chez moi, c'est pour ça.
c'était un peu le problème. Mais tu vois, moi, ce qui m'a frappé aussi quand on se baladait dans les rues de Washington, c'est de voir... Il y a deux choses qui, pour moi, émergeaient. C'est d'abord l'idée... C'est un peu l'Amérique des oubliés qui était là, tu vois ce que je veux dire. Ça me faisait penser, en fait, aux gilets jaunes chez nous en France, quoi, tu vois. Tu voyais que c'était souvent des Américains d'origine modeste et qui étaient là... avec un sentiment de revanche d'une certaine façon, tu vois. Des gens qui s'étaient sentis négligés, oubliés, regardés avec condescendance au fond par cette élite de Washington, et qui là venaient ici dire, ben voilà, on a gagné, on est là avec nos casquettes rouges, nos bonnets, nos t-shirts, pour finalement féliciter, aduler, montrer notre enthousiasme pour ce président qui nous a remis dans la lumière, qui a pensé à nous, qui a parlé de nous. Ce qui est, on a parlé tout au long de la campagne, hein, avec ce côté un peu paradoxal de ce milliardaire new-yorkais qui parle au nom de l'Amérique populaire. Mais moi, j'ai trouvé, je ne sais pas si c'est le sentiment que tu partages après les avoir vus dans la salle, mais que c'était, voilà, c'était l'Amérique populaire qui était venue célébrer Donald Trump ici à Washington.
Oui, exactement. C'est l'Amérique populaire qui, je trouve, s'est réunie à Washington, au centre du pays fédéral, pour célébrer sa victoire, en fait, pour dire que, voilà, ils avaient été, d'après eux, oubliés pendant 4 ans par l'administration Biden. Et en venant à Washington, effectivement, moyennant des coûts exorbitants, voilà, ils venaient dire, et c'est comme ça que je l'ai compris, que, eh bien, ils existent. Ils sont venus montrer qu'ils existent et qu'ils attendent du pouvoir fédéral, qu'ils attendent de la Maison Blanche, des actions pour eux, et d'après eux, eh bien, ces actions pour voilà, surtout qui concernent l'immigration, qui concernent le pouvoir d'achat, qui concernent l'énergie, et d'après eux, ils sont 77 millions par ailleurs à penser ça, à avoir voté pour Donald Trump, eh bien, ça passe par l'élection du républicain, effectivement. Alors maintenant, Donald Trump est à la Maison Blanche, et puis pour l'anecdote, et tu l'as vu, on en a déjà discuté ensemble. Il a donc signé ses premiers décrets dans le bureau ovale, un bureau ovale qu'il a redécoré. On a eu les photos qui sont sorties grâce à nos confrères américains du Wall Street Journal. Alors de ce qu'on a appris, Donald Trump a remis d'abord une chose très importante pour lui, le bouton pour commander du Coca Light qu'il affectionnait particulièrement. En 2016, mais sur un ton un peu plus sérieux, il a fait installer un portrait de Andrew Jackson, 7e président des États-Unis, dans les années 1830. Et je trouvais ça intéressant. J'ai regardé un petit peu tout à l'heure. Andrew Jackson, c'est un président qui avait perdu l'élection de 1824, une élection controversée. Il avait nié avoir perdu cette élection. Et puis 4 ans plus tard, il avait gagné la suivante. Donc je trouve que le parallèle est assez intéressant, et je pense comprendre que c'est pour ça que Donald Trump a remis un portrait de cet ancien président, le 7e président américain, dans ce bureau ovale, un buste de Winston Churchill, des drapeaux militaires. Donc voilà, je te parle de ça parce que je trouve que il y a effectivement les décrets qui ont été pris, il y a l'ambiance qui a changé dans les rues de Washington, même si aujourd'hui on est mardi et on l'a constaté ensemble, on voit quand même beaucoup moins de casquettes rouges. Les gens ont commencé à rentrer chez eux parce que mardi ce n'est pas férié, donc il faut aussi recommencer à travailler. Mais voilà, ce changement se traduit aussi jusqu'à l'intérieur de la Maison Blanche et le bureau ovale.
Ouais, c'est clair. Et moi, j'ajouterais que on a vu quand même Donald Trump en pleine forme, et on ne pouvait pas s'empêcher de penser au contraste avec Joe Biden. Oui. Tu sentais évidemment sa jubilation à être de retour après cette victoire absolument incontestable, même s'il ne faut pas en exagérer la portée. J'y reviendrai dans une petite seconde, mais voilà, il pétait le feu, Donald Trump, hein. Voilà, pardon de le dire comme ça, oui, un peu clairement, mais on le sait, tu vois, il débordait d'énergie. Enfin, il a fait une journée assez, même une succession de journées assez incroyable, du matin au soir, avec ses occasions officielles, ses discours, ses prises de parole interminables, ce discours improvisé au Capitole. Hier, il arrive à la Maison Blanche, il s'installe derrière son bureau ovale, et pendant quasiment une heure, il parle aux journalistes en même temps qu'il signe ses décrets, en répondant une série de questions sur tous les sujets possibles. Donc voilà, il est véritablement débordant d'envie, d'énergie et d'enthousiasme, et ça, évidemment, ça se sentait de manière évidente. Après, voilà, le plus dur reste à faire, bien sûr. On va voir comment ça se passe. Il faut juste avoir en tête, tu parlais effectivement à juste titre des 77 millions de personnes qui ont voté pour lui. Il y en a quand même 75 qui ont voté pour Kamala Harris, donc l'écart n'est pas extraordinairement important à l'échelle de l'histoire politique américaine des élections présidentielles. C'est pas du tout une victoire écrasante. Il a une toute petite majorité au Sénat, 52 sièges, je crois. Il doit avoir 4 ou 5 sièges de majorité à la Chambre des représentants. Voilà, il n'a pas une marge de manœuvre infinie quand même. Pour l'instant, il démarre pied au plancher. Il continue cette deuxième journée pied au plancher au moment où on se parle. Il attaque sa deuxième journée et il nous a annoncé pour ce soir la révélation d'un projet massif, dit-il, ouais. Un projet massif d'investissement dans les infrastructures. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, ça démarre de manière, faut dire les choses, réussie, assez impressionnante, totalement conforme à la personnalité de Donald Trump. Pied au plancher. Maintenant, il va falloir tenir la distance, bien sûr.
Effectivement, il va falloir suivre, tu as tout à fait raison, ce qui va se passer de nouveau au Capitole, mais d'un point de vue beaucoup plus politique, politicienne américaine. Je lisais que Donald Trump voulait faire passer un ou peut-être deux projets de loi et vraiment mettre tous ses souhaits législatifs et politiques à l'intérieur. Donc on va voir si tout ça va être faisable avec un processus très spécial qui s'appelle la reconciliation en anglais, qui permet d'adopter des lois en fait sans le soutien des démocrates au Sénat, à condition que la politique soit liée aux recettes et aux dépenses. Bref, on entre dans une dimension très 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 politicienne aux États-Unis, mais voilà, comme d'habitude, le diable se cache toujours un petit peu dans les détails. Et je trouve que voilà, c'est important qu'on comprenne, et tu as tout à fait raison de le dire, que la route n'est pas forcément très très droite pour Donald Trump. Il y aura peut-être des obstacles devant lui, même s'il fait mine de ne pas vouloir les voir, ou s'il tente de nous expliquer et de dire à tous ses partisans que ça y est, c'est parti, que le train est en marche et que rien ne pourra l'arrêter. Je trouve que c'est pas aussi clair. Donc certains décrets qu'il a pris vont pouvoir être mis en place assez facilement quand il s'agit des lois fédérales, de dire que voilà, tous les travailleurs, tous les employés fédéraux doivent arrêter le télétravail et revenir au bureau, par exemple. Après, s'il envisage réellement, par exemple, de supprimer le droit du sol, donc les personnes qui naissent aujourd'hui aux États-Unis sont de fait américaines, il a déjà expliqué qu'il voulait supprimer ce droit-là. Ça voudrait dire, par exemple, amender la Constitution, et ça sera beaucoup plus compliqué. Donc, voilà, j'ai le sentiment que, je suis d'accord avec toi, Donald Trump, la machine est en route, ça va vite, ça va fort. Maintenant, les prochains jours, les prochaines semaines, je pense, vont nous apprendre beaucoup sur la suite de ce mandat, avec toujours, sans oublier, ces élections, ces midterms dans 2 ans, qui souvent sont un point de bascule dans les mandats des présidents américains.
Oui, et puis faut pas oublier aussi ce dernier point important, ça reste un pays fédéral où les États ont beaucoup de pouvoir et de prérogatives, où d'ailleurs Donald Trump lui-même souhaite leur en donner davantage. On pense bien sûr à des sujets comme l'avortement, mais il y a aussi un autre sujet fondamental qui est l'éducation, et tu l'as entendu à l'occasion de cette investiture, apostropher celle qui allait devenir, je crois que c'était au meeting de la veille d'ailleurs, apostropher celle qui allait devenir sa ministre de l'Éducation, en lui disant « si tu réussis bien ton boulot, tu n'auras plus de boulot », puisque l'idée c'est que le ministère de l'Éducation ne servira plus à rien et qu'en fait le sujet sera traité état par état. Donc un des trucs qui va être, de mon point de vue, assez passionnant à suivre, ça va être de voir comment il arrive à irriguer, tu vois, sur le terrain, au niveau des États, cette révolution à la fois politique et législative qu'il entend mener ici à Washington.
Merci beaucoup, Thierry.
Merci, Benoît, et bon courage pour la suite dans l'hiver polaire de Washington.